Donc, rebonjour à tout le monde. C'est vraiment avec joie que je me tiens devant vous aujourd'hui. Même si le sujet dont je vais parler n'est pas facile, vous allez le voir, on va parler de l'église de Smyrne, l'église de la persécutée. Mais joie aussi parce que, à cause des différentes paroles et partages qui ont été donnés ce matin, je pense qu'ils ont été bien inspirés, puisqu'ils vont en partie alimenter soit ce que je vais dire ce matin, soit, et c'est pour moi plus étonnant et c'est très très bien ainsi, vont en fait écho à des choses que l'on a partagées, soit avec Abdel et Toby hier après-midi, soit également hier soir et ce matin, même ce matin au petit déjeuner, il y a des choses qu'on a entendues qui reflétaient ça. Donc c'est un des signes que nous donne le Seigneur que, voilà, il est présent. Et il touche l'un, il parle au travers de l'un, au travers de l'autre. Donc ça, c'est notre joie de le voir, de l'expérimenter. On va juste prier donc avant la prédication. Père Céleste, nous voulons nous tenir devant toi dans la faiblesse, dans la cécité, dans la nudité, dans la pauvreté, pour confesser que c'est ton Fils qui nous ouvre les yeux, c'est ton Fils qui nous revêt de son vêtement de justice, c'est ton Fils qui nous enrichit, c'est en lui que tu as tout placé, et pour être rendu participant de cela, tu nous demandes de nous dépouiller de nos prétentions, de tout ce qui nous est propre, de telle manière à nous revêtir de ce Fils en qui tu as tout placé, tout ce dont nous avons besoin, et qui nous transmet par la connaissance de ce Fils. Puisse, Seigneur, les paroles de ce matin, qui sont partagées en ton nom, puissent-elles nous aider à avancer dans ce chemin de dépouillement et de découverte et de révélation du Fils. Amen. Donc la dernière fois que j'étais venu, il y a un mois, nous avons parlé de l'église d'Éphèse et on avait donné comme thème de la dernière prédication le premier amour. Et le thème quelque part de l'amour, c'est celui que je vais conserver pour chacune des sept églises, que cet amour soit vibrant ou que cet amour soit affaibli. Aujourd'hui, c'est l'église de Smyrne, la deuxième des sept églises auxquelles Jésus a adressé une lettre. Et l'amour de l'église de Smyrne est un amour sacrificiel. C'est un amour qui est prêt au don complet de soi. Et puisque le contexte de l'église de Smyrne, comme nous allons le voir immédiatement, c'est le contexte de la persécution et le contexte du martyre. Et je rappelle d'emblée que martyr en grec veut dire d'abord le témoignage. C'est ça que veut dire le mot grec, martyr. Le témoignage qui peut aller jusqu'au martyr. Donc, on va lire le texte de l'église de Smyrne. Et vous allez voir d'emblée que je vous ai donné donc un petit texte pour qu'on y lisions le même, mais surtout pour vous parler en deux mots de sa structure. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix le texte que vous avez sous les yeux?
Alors, écrit au messager de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je vais jusqu'au bout, hein. Ouais. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici l'accusateur jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, la seconde mort ne lui nuira pas.
Voilà. Donc c'est le texte de la Bible Seconde que j'ai légèrement modifié à deux, trois endroits pour bien marquer le sens, et en particulier dans les petits papiers donc, que je vous ai donnés, Vous voyez que je l'ai arrangé dans ce qui s'appelle un chiasme, en séparant les entrées. Et pourquoi c'est important? Comment est-ce que l'on reconnaît ici le chiasme? Je fais ça de manière très rapide. Vous voyez le passage, je vous l'ai dit, le deuxième écrantage, voici ce que dit le premier et le dernier. Il est dit, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Mort, vie. Et vous retrouvez ça dans l'avant-dernier item. Soyez fidèles jusqu'à la mort et je donne la couronne de vie. Mort, vie, mort, vie. On continue, on resserre encore. Je connais ta tribulation. Et là, il est question de... Oui, je connais ta tribulation. Le mot-clé, là, c'est le mot tribulation. Ben, regardez en vis-à-vis. Voici l'accusateur. Et vous connaîtrez une tribulation. Le même mot qu'on retrouve. Ça permet de dire encore un miroir. Pourquoi c'est important? Quand on reconnaît une structure comme ça, on regarde immédiatement ce qui est au centre. Quand un texte est structuré, l'auteur nous dit, c'est parce que l'important, je l'ai mis au centre. Et vous voyez qu'au centre, on trouve, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Et le mot souffrir qui est employé ici, c'est le verbe grec pasco, qui est du même racine que le mot la Pâque. Donc on pourrait traduire, ne crains pas la Pâque par laquelle tu vas aussi passer. Ne crains pas la Pâque. Pourquoi? Parce que j'y suis déjà passé. Voyez? Donc là, le cœur du propos est donc, ne crains pas la Pâque que tu vas souffrir. Voilà, ça donne d'emblée la tonalité de l'adresse de Jésus à l'église de Smyrne. Donc, ça va être le fil qu'on va garder. Bien. Donc, vous voyez l'intérêt de ces structurations-là, quand on les reconnaît, ça aide à pointer le doigt vers ce qui est le cœur du message. Alors, je rappelle, comme la dernière fois, je l'avais fait pour l'église d'Éphèse, à qui Jésus s'adresse-t-il? Il s'adresse aux messagers de l'église, ici, de l'église de Smyrne. Donc aujourd'hui, le messager, ce sera moi-même, dont cette parole m'est d'abord adressée. On a beaucoup parlé avec Abdel hier, on ne peut parler que de ce dont on a, de ce que l'on a déjà vécu soi-même. Sinon, notre témoignage est faux. Donc, mais en parlant aux messagers, heureux celui qui lit et ceux qui entendent, c'est également adressé à l'ensemble de l'Église. Donc nous sommes, si je puis dire, tous dans le même bateau et par les paroles des uns et des autres, nous encourager aujourd'hui à réfléchir sur ce qu'est cette Pâque à laquelle le Seigneur nous invite pour que sa Pâque devienne la nôtre. Comment Jésus se présente-t-il? Jésus se présente ici comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et ça, c'est un point qui est très important. Jésus ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas vécu lui-même. Pour la bonne raison que ce n'est qu'en lien, en union, en attachement avec lui, que de toute façon, on va pouvoir passer par cette Pâque. Donc Jésus est toujours celui qui a ouvert la voie, c'est celui qui a pris la machette et a taillé dans la forêt vierge, c'est celui qui ouvre le chemin, il est le chemin, mais il ne demande jamais quelque chose qu'il n'a pas expérimenté lui-même. Il nous demande de supporter les tentations parce qu'il les a supportées lui-même, d'engager le combat spirituel parce qu'il l'a engagé lui-même. Donc ça c'est très important, il ne nous largue pas avec ses commandements. Non, il les a d'abord vécus et il nous embarque avec lui pour que lui et nous, ensemble, on puisse les traverser. Et quand j'ai lu ce verset, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, j'ai immédiatement... Alors évidemment, on pense à la Pâque, la croix, la mort, la résurrection. Mais voyons ça d'un côté humain, puisque Jésus s'adresse à nous, il nous invite sur ce chemin. Et j'ai pensé immédiatement à deux passages. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour le développer, mais pensons à Gethsémané. Gethsémané. S'il était possible, Père, que cette coupe passe et s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Tel que je comprends ce passage à Gethsémané, c'est l'humanité de Jésus qui a crié face à la mort. Donc, il n'est pas impassible, froid et glacial, allant, vous voyez, à la mort. Non, son humanité, j'allais presque dire, a hurlé, puisqu'il en a eu des sueurs de sang. Son humanité a hurlé face à la mort. Et son esprit a repris le dessus. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc quand Jésus dit « Je suis celui qui est mort et revenu à la vie », il est en train de dire aussi « Mais je sais que ça fait mal, je sais que ça coûte, je sais parce qu'il l'a vécu ». Et le deuxième endroit évidemment où on voit cette lutte, c'est à la croix elle-même. Puisqu'à un moment donné, il va dire « Mais Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le Père ne l'avait jamais abandonné. Mais dans son humanité, à un moment donné, dans sa souffrance et dans la conscience de porter la foudre à cause de nos péchés, il a perdu la vision du Père. Mais ensuite, à nouveau, l'Esprit a repris le dessus. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et baissant la tête, il expira. Donc, on voit que ce passage par la mort et par la vie, Jésus n'était pas un super-héros traversant ça de manière neutre. Non, non. Son humanité a réagi jusqu'à la fin. Mais à chaque fois, l'esprit a pris le dessus. Et là, il y a une leçon pour nous. Le chemin de la mort, c'est également celui qui libère l'esprit et permet à l'esprit de prendre le dessus. Donc l'esprit qui oriente nos regards vers Jésus. Un esprit de confiance et de foi, quand bien même on passe par le chemin de la vallée de la mort. Donc voilà comment Jésus se présente d'emblée. Il ne demande pas à Smyrne quelque chose qu'il n'a pas vécu. Donc on va continuer. Donc j'ai dit que l'église de Smyrne, c'était l'église des martyrs. Alors évidemment, quand on pense au récit de martyrs, on pense au récit évidemment de la passion, donc qui sera célébré dans 2 semaines, c'est ça, hein? Le récit de la passion, donc Jésus lui-même, qui a connu ce martyr, qui a connu ce témoignage. Comme il est dit dans Jean 3, je suis venu pour rendre un témoignage au monde, mais le monde ne reçoit pas mon témoignage. Témoignage qui va se traduire pour Jésus en martyr. Est-ce qu'il y a un autre martyr qui vous vient à l'idée? Alors je vous aide un peu dans le livre des Actes. Comment? Bien sûr, le martyr d'Étienne. Donc je vais vous lire quelques versets de ce martyr. Dans Actes 7, les versets 55 à 60. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Et quand je lis ce petit passage, c'est frappant de voir le nombre de parallèles avec le martyr de Jésus. Ils le traînèrent hors de la ville. C'est ce que dit l'épître des Hébreux. Jésus a dû mourir hors de la ville. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ne leur impute pas ce péché. Jésus avait dit, mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit la communion des martyrs, si je puis dire, dans ce récit d'Étienne. Ce que je note également, c'est la vision qu'Étienne a eue de Jésus. Donc je ne dis pas que tous les chrétiens martyrs ont cette vision, mais ma pensée profonde, c'est qu'il y a une mesure de grâce qui est accordée pour les chrétiens, pensons en particulier en Orient ou dans d'autres pays, qui passent par le martyr. Ceux qui connaissent Jésus, à un moment, la perception, voire éventuellement la vision même de Jésus, fait que les pierres peuvent tomber, le couteau peut trancher, L'esprit est déjà ailleurs. Oui. Donc le Seigneur ne nous abandonne pas à une souffrance qui n'aurait aucun sens, une souffrance gratuite. Et là, c'est vraiment ce que l'on voit dans le martyre d'Étienne. Donc c'est vraiment là pour nous encourager. Le Seigneur est avec nous jusqu'au bout. Et le point important, c'est toujours l'esprit qui prend le dessus. Donc c'est le cas de nombre de chrétiens aujourd'hui, ne l'oublions pas. Donc c'est bien de régulièrement penser que nous vivons dans notre petit confort en Occident, mais pour d'autres chrétiens, c'est une autre histoire. Mais je dis ça et je suis immédiatement repris. N'avons-nous pas eu dans les dernières années tel prêtre, tel chrétien, tel religieux, qui sur notre territoire a également connu le martyr? Donc vous voyez, là, ça commence à se rapprocher. Ce n'est plus si loin que ça. Et on ne sait pas ce que va nous réserver l'avenir devant nous. On ne sait pas comment. Ça peut très bien mal tourner tout ça. Et les premiers visés seront les chrétiens. Donc gardons ça en tête. Mais dans l'adversité, il y a les encouragements du Seigneur. Donc face à la perspective du martyr, on a deux réactions contraires et antagonistes. La première, il en est qui recherchent le martyr, mais pour les mauvaises raisons, comme si leur propre sang pouvait payer pour leur péché. Ça devient une œuvre. Certains, donc fanatisés, cherchent le martyr. Mais peut-on ajouter quelque chose au martyr de Jésus? La réponse est non. Le tout accompli, la croix, ça a déjà été fait. La seule chose qui peut être faite pour nous, c'est de nous unir à ce que lui a déjà fait. À nouveau, sans lui, on ne peut pas passer par ce chemin-là. Donc la première, c'est la recherche fanatique du martyr. Mais l'autre possibilité, c'est la crainte. Oh là là, mais la perspective de mourir, et on est dans la crainte de la mort. La crainte de la mort. Alors comment fait-on pour éviter d'un côté le martyr fanatique, mais de l'autre côté sortir de cette crainte de la mort? Je ne dis pas que nous allons tous connaître le martyr. Par contre, il y a quelque chose qui est derrière la crainte du martyr, c'est la crainte de la mort, tout simplement. Et donc là, ça nous renvoie immédiatement au cœur du chiasme dont je vous ai parlé, ne crains pas. Et quand j'ai lu ce ne crains pas, j'ai pensé à deux passages que je vais vous lire. Le premier se trouve dans Apocalypse au chapitre 12, donc on est bien dans le même livre, les versets 10 et 11. Donc, je ne vais pas donner tout le contexte d'interprétation du livre de l'Apocalypse, etc., mais regardons-le simplement comme le récit d'un martyr. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, témoignage martyr, même mot, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ça, c'est le premier passage, mais là, on parle bien d'un martyr exactement comme celui de Smyrne, le passage par la mort. Je vais vous lire maintenant un deuxième passage qui va élargir cette question. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Et là, on voit la compassion au sens étymologique de Jésus. Il souffre avec. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, tiens, tiens, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et là, il y a deux manières de comprendre cette crainte de la mort. La première, c'est la crainte de la mort physique. Oh, je crains la mort, est-ce que je serai prêt avec le Seigneur, hein? Mais si on est dans cette crainte-là, il est dit: Nous sommes encore dans la servitude de la chair et la servitude du péché. Mais cette crainte de la mort-là, à mon avis, ce n'est pas de celle-là dont il est question, c'est l'autre mort, qui est celle dont on a parlé déjà tout ce matin, la mort à nous-mêmes, la mort à ce qui nous est propre, qui nous permet de sortir de l'esclavage du péché. Et c'est la mort dont parle l'apôtre Paul en particulier dans son épître aux Romains, l'épître magistrale, puisque Paul, de Romains 1 à Romains 8, décortique tout le mécanisme de mort et de résurrection avec Jésus. Donc, au-delà de la mort physique, je pense que dans ce passage d'Hébreux 2, on peut y voir également la crainte de la mort, la crainte de passer par ce goulot d'étranglement qui est la mort à soi, qui est l'union à Jésus en sa mort pour connaître sa puissance de résurrection. En clair, la marche par l'esprit qui permet de contourner la chair, de la vaincre. En nous-mêmes, on n'a aucune puissance face à la chair. Il nous faut passer par la mort, comme il a été dit ce matin. Et cette idée-là, alors sans allonger le texte, on le trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Je n'en lis que deux versets. Le verset 7, « Celui qui est mort est libre du péché. » Et le verset 11, « Vous-même comptez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. » Si on a la crainte de cette mort, de perdre ce qui nous est propre, de perdre notre propre vie, on ne peut pas passer par ce goulot d'étranglement qui permet ensuite de connaître la puissance de celui qui est ressuscité. La puissance sur notre propre chair. Donc, quelque chose en nous doit mourir. On peut l'appeler la vie propre, on peut appeler l'égoïsme, on peut l'appeler notre volonté forcenée, mais il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir entrer en union avec Jésus. Et toute l'œuvre de la repentance, du dépouillement, de la crucifixion, elle est liée à ce quelque chose en nous qui doit mourir. Parce que tant qu'on ne l'affronte pas, nous restons, comme il est dit dans Hébreux 2, dans la servitude. La loi n'a de puissance que sur celui qui vit. Mais sur celui qui est mort, la loi n'a plus aucune puissance. Or, c'est la loi, comme on l'a dit la dernière fois, je crois, c'est dans la loi que se trouve la puissance du péché. Donc, il n'y a que deux possibilités. On accomplit la loi. Je pense que personne n'en est capable. Il n'y a qu'un seul qui a pu le faire, c'est Jésus, parce qu'il n'avait pas de nature de péché. Et pour nous, la seule échappatoire à la loi, c'est la mort. Puisque la loi n'a pas de puissance sur celui qui est mort. Donc Jésus est mort pour qu'en union avec lui dans sa mort, nous échappions à la puissance de la loi et l'accomplissions par l'amour. Sans avoir à nous-mêmes satisfaire aux exigences de la loi, qui serait notre propre condamnation. C'est la raison, c'est exactement ce qui a été dit ce matin, c'est la raison profonde pour laquelle Jésus veut nous entraîner dans sa propre mort et nous entraîner dans l'acceptation de notre propre dépouillement pour pouvoir dire véritablement, comme je l'ai introduit dans la prière, je suis aveugle, je suis pauvre, je suis nu, mais toi, tu me donnes ta lumière, toi, tu me donnes ton vêtement de justice, toi, tu me donnes ta richesse. Et il faut arriver à pouvoir confesser ça devant le Seigneur. Comme le dit Paul, en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a rien de bon. J'arrête de regarder à moi. Il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à bricoler, il n'y a rien à guérir. J'arrête de regarder à moi, je ne regarde plus qu'à toi. Il faut arriver à ce moment où on peut dire, voilà, je ne regarde plus qu'à toi. Il n'y a plus rien à chercher dans ma propre chair. Je regarde à toi. C'est de cette mort-là dont je suis en train de parler. Donc, l'œuvre du tout accompli à la croix, qui a eu lieu historiquement une fois il y a 2000 ans, doit devenir subjective dans notre vie, en union avec Jésus. C'est-à-dire, ce que Paul appelle par ailleurs dans ses épîtres, le dépouillement du vieil homme, le dépouillement des œuvres mortes, épître aux Hébreux, le dépouillement de la vie propre, c'est ce que dit Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, va la retrouver. Souvent, on a peur de ce dépouillement parce qu'on a l'impression qu'il n'y aura plus rien si on se dépouille. Mais exactement comme tu l'as dit Abdel, Si Jésus détricote, défait, décortique, nous brise, et on va voir juste maintenant comment, c'est pour nous réunir à lui, pour nous intégrer à lui, pour que sa volonté devienne la nôtre, pour qu'on soit entraîné dans sa dynamique à lui, parce que celui qui accomplit les œuvres du Père, c'est lui. Mais si nous devenons membres de son corps, il nous embarque avec lui dans la pratique des œuvres qu'il prépare devant son Père. C'est lui, en fait, qui est la dynamique de tout, le moteur de tout. Nous avons juste à nous laisser intégrer en lui, incorporer à lui. Mais c'est lui, j'allais dire, le bœuf principal de la charrue, celui qui porte le joug, c'est lui. Et il nous associe à lui, mais c'est lui qui porte tout. Mais si on reste à 20 km, on ne peut pas marcher avec lui. Il faut porter le joug. Il faut se conjuguer à lui. Conjugaison, conjugalité, union. Les deux deviennent un. C'est comme ça que le tout accompli de Jésus, historique, objectif, il y a 2000 ans, va devenir subjectif dans notre propre vie. La clé entre les deux, c'est l'union. Jésus ne peut pas rester là-bas et nous ici. À un moment donné, il faut bien. Donc la dernière fois, quand j'avais parlé d'Éphèse, j'avais dit qu'un des moyens d'entrer dans cette union, c'est la vie de prière, de repentance, Hébreux 4, de mise à nu de notre être devant Dieu, de dépôt, comme il a été dit ce matin, on dépose les fardeaux, on dépose les questions, on dépose nos luttes, on se met à nu devant lui, on ne garde plus rien. Rappelons-nous que Jésus a été nu à la croix, et que si nous devons nous unir à lui à la croix, il nous faut paraître également nus tels que nous sommes. Non pas que Dieu ne sache pas ce que nous sommes, non pas que Dieu ne connaisse pas notre chair, mais c'est nous qui ne la connaissons pas. C'est nous qui ne savons pas combien notre chair elle est retors et combien elle est prête à se travestir, à se faire religieuse autant que possible pour ne pas avoir passé par la mort. Elle va faire des bonnes œuvres, elle va se farcir la tête de théologie, etc. Mais elle va éviter la mort, la croix. Donc ça, c'est un des aspects, la vie de prière, la vie de repentance, la vie de dépouillement. Mais il y a un autre moyen que le Seigneur emploie. Et c'est exactement ce dont il est question ici, puisqu'il est dit « Je connais ta tribulation, vous allez être éprouvés et aurez une tribulation de 10 jours. » Et là, c'est la notion d'épreuve. Il y a la vie dans l'intimité avec Jésus de dépouillement et de prière, mais il y a également l'acceptation des épreuves que le Seigneur nous envoie. Et dans le cas spécifique de Smyrne, Jésus leur dit, il y a une dernière épreuve par laquelle vous allez passer, sois fidèle et tu recevras la couronne de vie. Et cette épreuve, on le voit dans le contexte, c'est la persécution de la synagogue des Juifs qui était à Smyrne. Donc là, c'est très concret. On voit très bien dans le Nouveau Testament que l'antagonisme a toujours été entre les Juifs de la première heure recevant Jésus comme leur Messie et ceux qui sont restés incrédules. Regardons les épîtres de Paul, le livre de Actes, l'antagonisme a toujours été là. Et c'est exactement l'antagonisme que connaît l'église de Smyrne. Elle allait souffrir la persécution de la part de la synagogue des Juifs, donc de la ville de Smyrne. Je vais revenir sur ce point. Les épreuves. Comment réagit-on face aux épreuves? Est-ce qu'on demande à Dieu de les enlever? Est-ce qu'on dit à Dieu, je ne supporte pas? Ou alors, tiens, il m'arrive telle chose, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Sur quoi est-ce que tu veux mettre le doigt? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu est souverain au point de compter même nos cheveux? Donc, à combien plus forte raison est-il souverain sur les épreuves, les adversités, les oppositions, les maladies, les... Toutes sortes d'épreuves, elles ont en fait pour but de nous amener à plier, à nous soumettre, voire à nous dépouiller. C'est le cœur de l'épreuve. Si on refuse l'épreuve, on n'entre pas dans cette discipline de mort et de vie. Donc face à l'épreuve, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Sur quoi veux-tu mettre le doigt? Et je prends, parce que je vois que le temps passe, très rapidement quelques exemples. Pensons à Job. D'accord? Non, je ne vais pas raconter l'histoire de Job, vous l'avez tous en tête. Je retiens juste une chose. Dieu l'a dépouillé, 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 dépouillé. De ses enfants, de ses biens, de sa santé. Dépouillé, dépouillé. Jusqu'au moment où il a pu dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc l'épreuve, ce n'est pas un Dieu sanguinaire qui veut nous faire du mal. C'est un Dieu qui découpe ce qui est un obstacle pour qu'on arrive à le voir, lui, et qu'il n'y ait plus que lui, lui. Et à partir de là, Dieu lui a rendu les fils, Dieu lui a rendu les biens. Mais il y a eu ce goulot d'étranglement par lequel Job a dû passer. Ce goulot d'étranglement, ce n'est pas au moment de sa mort. C'est quelque chose qui a eu lieu avant, par lequel il a fallu qu'il passe pour ensuite dire mon œil t'a vu. Et quand on a ce schéma en tête, pensons à Abraham. Le cœur de la lutte d'Abraham, c'était quoi? Mais ma femme n'a pas de fils. Je ne vais pas avoir de postérité. Je vais mourir, mes biens vont rester, vont être laissés à mon serviteur. Et à l'âge de 75 ans, Dieu lui dit, tu auras une postérité de ton nom. Et là, il fut justifié, comme il est dit dans Genèse 15. Mais ça n'a pas suffi. D'abord, il y a eu une lutte en lui, à tel point que, bon, ben, allez, Agar, hop, il a eu Ismaël par là. Donc la chair a essayé d'accomplir la promesse de Dieu. Et ensuite, quand le moment est venu d'avoir la postérité, donc lui avait 100 ans et Sarah 90, alors que c'était fini d'un point de vue humain, Sarah était stérile. Voilà que Sarah devient enceinte. Grande joie! Abraham, grande joie, ça y est! La parole est accomplie, j'ai une postérité. Mais là, Dieu a vu le danger. Oh là là, il est en train de s'attacher à Isaac. Isaac est en train de prendre la première place. C'est la raison profonde pour laquelle dans Genèse 22, Dieu l'a dit, bon, maintenant ton fils, là, ton fils, ton bien-aimé, ton unique, tu vas l'amener sur la montagne et tu vas le sacrifier. Parce qu'il a vu que Abraham était en train d'idolâtrer Isaac. Tu vas le sacrifier. Et là, Abraham a été pris dans un conflit terrible. D'un côté, Dieu me dit qu'Isaac, c'est la postérité promise, et de l'autre, il me demande de le sacrifier. Mais Dieu n'est pas menteur. Et là, il me demande quelque chose qui semble aller contre la promesse. Mais comment il va faire? Et l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est forcément qu'il va ressusciter mon fils. Et c'est comme ça qu'est venue la pensée de la résurrection en Abraham. Et donc, par l'obéissance, au moment où il levait le couteau, stop! Voilà l'agneau qui va le remplacer. Et l'épître de Jacques, au chapitre 2, nous dit que c'est au moment où Abraham était prêt à sacrifier son fils que la parole de justice qu'il avait reçue en Genèse 15 s'est trouvée accomplie, que sa foi a été traduite en œuvre. Et donc le goulot d'étranglement dans la vie d'Abraham, c'est le moment où il a levé la main. Et là, Dieu l'a arrêté. C'est bon, j'ai vu que tu étais prêt à me sacrifier ton fils, ton unique. C'est bon, j'ai pourvu. Récupère ton fils. C'est bon, tu as été prêt à le sacrifier. Maintenant, je peux te le laisser. Il ne sera plus une idole dans ta vie. Je resterai le premier dans ta vie. Ton fils aura juste la seconde place. Donc, il faut imaginer le brassage que ça a dû être pour Abraham, une mort à lui-même, une agonie, en se disant, mince, mais pourtant Dieu me le demande, donc je dois le faire. Goulot d'étranglement. Je vais un peu plus vite. Jacob le fourbe, qui avait reçu la bénédiction de la part de son père, mais qui était quand même assez magouilleur pour faire aller la bénédiction dans son sens. D'accord? Et à force de gruger son frère Ésaü, Ésaü a fini par voir rouge. Et Ésaü était prêt à débarquer avec 400 hommes pour aller le mettre à mort, Jacob. Là, là, maintenant, ça suffit, Jacob. Je ne veux plus en entendre parler. Et la nuit même, avant la rencontre avec Ésaü, voilà que Jacob se retrouve au gué de Jabbok, en train de lutter avec l'ange. Parce que là, il savait, là, maintenant, ça passe plus. Mes magouilles, mes ruses avec Ésaü, ça passe plus. Ça passe plus. Et là, l'ange de l'Éternel est venu et il a lutté avec lui toute la nuit. Et Au petit matin, là, il a frappé Jacob. Il a frappé Jacob. Il l'a rendu faible. Et ensuite, quand Ésaü est venu, Jacob, il a envoyé ses femmes, les enfants, et ensuite il s'est prosterné 7 fois sur le sol, à plat ventre, devant son frère. Alors qu'avant, il aurait été, je suis malin, je vais l'avoir encore une fois de plus, mon frère. Mais là, il savait que c'était plus possible. Donc Dieu l'a frappé, goulot d'étranglement, guet de Jabok. À partir de là, Jacob n'a plus été jamais le même. Il n'a plus été Jacob le fourbe. Il est devenu Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Goulot d'étranglement. Pourtant, il avait la bénédiction, hein, d'Abraham, Isaac, mais là, en ayant la bénédiction, il a fallu passer par un goulot d'étranglement. Et le dernier exemple que je donne, pensons à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, le fougueux, on l'a entendu ce matin, le fougueux, l'intempestif, toujours prêt à foncer, même si c'est pour faire une bêtise. Mais le cœur était bien placé. Mais voilà, c'était en Orient, dire de quelqu'un, l'appeler Kephas, ça veut dire Pierre, Kephas en araméen, ça veut dire, il est un peu lourd, hein. Il est un peu lourd, quoi. C'est ça que ça veut dire en Orient. Quand Jésus dit, tu es Kephas, tu es Pierre, il est en train de dire, mais je reconnais ton caractère, il est un peu lourd. Donc il a fallu que Jésus le brise. Est-ce que vous pouvez me dire quel a été le goulot d'étranglement pour l'apôtre Pierre? C'est quoi ce moment décisif où il a été brisé? Quand il a renié Jésus. Et donc, il a manifesté son caractère, comme Jacob l'avait manifesté, comme Abraham dans son désir de paternité, mais Jésus l'a amené, et j'allais presque dire l'a sauvé, alors que lui-même était déjà en train de subir le martyre. C'est là qu'il a sauvé l'apôtre Pierre, en le confrontant, ah, tu es fougueux en apparence, mais regarde ta lâcheté intérieure, regarde, tu es prêt à me renier, tu l'as même fait 3 fois. Et là, l'apôtre Pierre a été brisé. Ça a été le goulot d'étranglement. Et on sait qu'il est devenu ensuite le prince des apôtres. C'est le premier qui a confronté la foule après la Pentecôte. Et là, vous voyez bien que son caractère fougueux, il était encore là. Mais cette fois, il était soumis à l'Esprit de Dieu. Et il a pu annoncer l'Évangile. Il a ouvert la porte de l'Évangile. Je pourrais parler de l'apôtre Paul. Voilà, je ne vais pas le faire par manque de temps. Mais voyez l'idée. Il y a un goulot d'étranglement. Les épreuves nous font passer par cette mort qui permet ensuite à l'esprit de prendre le relais. Je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. C'est très intéressant ça parce que ça montre le regard que Smyrne avait sur elle-même. C'est le reproche d'ailleurs que fait Jésus à Laodicée, je l'ai cité tout à l'heure. Tu es riche, enrichi, tu n'as besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. C'est ce que disait Jésus, et on verra ça quand on parlera de Laodicée. Là, Smyrne, elle savait qu'elle était pauvre. Elle savait qu'elle était pauvre. Mais Jésus lui dit, mais en fait, tu es riche. Moi, je te vois riche. Mais riche de quoi? Pensons à ce texte, justement, en regard avec Laodicée. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Vous permettez de me donner 5 minutes de plus? C'est pour éviter que ça sonne en plein milieu de... Mais j'y arrive. Apocalypse 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Ce qui a été la richesse de Smyrne, c'est les épreuves par lesquelles elle est passée, qui l'ont dépouillée, dépouillée, jusqu'à ce qu'elle dise, mais je suis pauvre, j'ai peu de puissance. Béatitude de Matthieu 5. Je suis pauvre en esprit. Comment j'ai... Et Jésus dit, non, tu es riche. Tu es riche parce que je suis avec toi et je vais passer avec toi dans cette épreuve, dans cette mort, l'épreuve ultime qui amènera ton martyre, l'opposition de la synagogue. On voit que la richesse de Smyrne était dans les épreuves que Smyrne, au lieu d'éviter, a confronté avec le Seigneur pour passer par cette mort qui lui a ôté la crainte de la mort et lui a permis d'aller au martyre. C'est la même idée que, alors je ne vais pas le lire, qu'on retrouve dans la première épître de Pierre au chapitre 1, versets 6 à 9. Je lis juste. Vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus paraîtra. La même idée. Ce qui nous enrichit, c'est notre parcours de vie semé d'épreuves dans lesquelles on a pu voir le Seigneur agir. Soit pour supporter l'épreuve, soit pour vaincre l'épreuve. Ce qui fait notre richesse, c'est notre témoignage, notre martyre, ce que l'on peut raconter de la manière dont Jésus nous a fait passer au travers d'une épreuve après l'autre pour toujours plus aller dans cette mort. De telle manière que le trésor devienne Jésus et Jésus seul, que le regard ne soit plus sur nous-mêmes, mais sur Jésus. C'est ça le trésor. Hein, l'homme bon qui accumule dans son cœur le bon trésor. Ce trésor-là, c'est la liste des épreuves par lesquelles on est passé et par lesquelles le Seigneur nous a fait passer pour le découvrir dans une facette, là, une autre facette. Voilà, on découvre Jésus par les épreuves. Quand tout va bien, on ne donne pas d'occasion à Jésus de se révéler. Donc il nous envoie les épreuves pour notre bien, pour que nous puissions nous détacher de nous-mêmes et le regarder lui. Donc j'ai déjà dit quelle était la dernière épreuve donc, par laquelle devait passer Smyrne. Je vous rappelle juste, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Église, vous connaissez, je pense, Polycarpe, le deuxième siècle de notre ère, justement Polycarpe qui habitait à Smyrne et précisément qui a été persécuté par la synagogue de Smyrne et qui a fini brûlé au feu. Donc c'est quand même assez étonnant de voir dans ce récit de l'église de Smyrne, premier siècle, l'église contemporaine au premier siècle, et on voit un exemple en fait de ça très très concret, qui est resté dans l'histoire, c'est le martyr de Polycarpe. Tapez martyr de Polycarpe dans Wikipédia, et vous allez avoir le récit de la mise à mort de Polycarpe. Donc voilà, ne crains pas ce que tu vas souffrir, ne crains pas la Pâque par laquelle tu dois passer, sachant que moi, j'y suis déjà passé également. Mais il faut passer par la croix, il n'y a pas de vie de résurrection, il n'y a pas de marche par l'esprit, comme le dit la parole, s'il n'y a pas eu une mise à mort. Vouloir les promesses de la parole de Dieu sans passer par cette mort, c'est ce que Bonhoeffer appelle la grâce bon marché. Alors tout le monde veut dire « je crois en Jésus, alléluia, amen », mais elle ne nous a pas coûté notre vie. Non pas que notre vie soit une œuvre à offrir à Dieu, mais simplement c'est la manifestation de notre union à Jésus, Romains 6, en sa mort et en sa résurrection. Donc Bonhoeffer et Luther avant lui, et Calvin aussi dans son institution, nous montre que la grâce de Dieu, elle est accordée à celui qui se sait condamné. Il faut passer par la mort. Et là, je suis condamné, je n'ai plus rien à offrir, je n'ai rien à apporter. Ma connaissance ne sert à rien, mes expériences ne servent à rien, mon passé ne sert à rien. Seigneur, voilà. Et là, la grâce vient. Ça s'appelle la grâce qui coûte. Lisez le livre de Bonhoeffer, Le prix de la grâce. Tout premier chapitre. Donc, la grâce, elle est gratuite, c'est son nom, mais elle nous coûte notre vie pour que l'œuvre de Jésus devienne nôtre, que nous soyons intégrés dans sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc là, j'en arrive maintenant à la conclusion, pour respecter les temps. Le point central donc du message que Jésus adresse à Smyrne, c'est « ne crains ». Et ne pas craindre la mort, cela signifie être déjà mort. Quand on est déjà mort, on ne craint plus la mort, parce qu'on n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qui fait que l'on craint la mort physique? C'est parce qu'on a des choses à perdre, des choses qu'on n'arrive pas à lâcher, les choses auxquelles on se raccroche. N'envions pas les milliardaires avec leur compte en banque et des milliards et des milliards. En fait, on voit très bien que c'est une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose qui pourrait les sauver. On est entré nu dans le monde, on repart nu dans le monde. Ça peut être l'argent, ça peut être la connaissance, ça peut être la gloire humaine, ça peut être plein plein de choses. On essaye de maintenir la vie au travers de ça. Et c'est parce qu'on a peur de les lâcher qu'on craint la mort. Donc le leitmotiv quelque part de la prédication de ce matin, c'est celui qui est mort, est déjà mort en Jésus, qui accepte le dépouillement, ne craint pas la mort. Et si nous craignons la mort, voilà la voie pour ne plus la craindre, le dépouillement. Dépouillons-nous. Confessons devant Dieu que nous sommes aveugles, que nous sommes pauvres, que nous sommes nus, que nous n'avons rien en nous-mêmes, mais que tout est en lui. Que Dieu, le Père, a tout sécurisé en son Fils. Personne ne peut ravir ce que le Père a placé en son Fils, le bon trésor. Et outre la prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je le rappelle, la manière dont on réagit aux épreuves montre si nous acceptons d'entrer dans cette mort ou non. Ça va être un des critères parmi d'autres, mais c'est un critère déterminant. Dieu répond souvent à nos prières par les épreuves. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps, nos prières peuvent durer 5 minutes. On va exprimer un besoin, une prière à Dieu. Et Dieu va mettre 3 mois à répondre. Parce qu'en réponse à notre prière, il va envoyer une épreuve. Et au départ, souvent, on ne fait pas le lien entre les deux. Mais si on accompagne la prière dans l'épreuve, dans la prière, on se place devant Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? On se rend compte à un moment, mince, mais il est en train de répondre à ma prière. Moi, j'aurais voulu un verset biblique, un ceci, un cela, et voilà qu'il m'envoie une épreuve. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps, le temps de Dieu n'est pas du tout le nôtre. Nous, on exprime un besoin et Dieu va répondre parfois par des épreuves qui vont durer des mois et des mois. Mais en fait, il est en train de répondre. Donc, il ne faut pas lâcher. Hein? Toute la marche chrétienne est une marche de persévérance. Et je termine avec ce dernier verset, qui est une illustration de ce que je viens de dire, qui est la confession même de l'apôtre Paul, qui savait qu'il allait au martyre. Et voilà ce qu'il dit en sachant qu'il allait au martyre. Donc Philippiens 1, versets 20 à 24. Mais je vais lire simplement à partir des versets 21, 22 et 23. Voilà ce que Paul a pu confesser. Christ, le Messie Jésus, Jésus est ma vie. Et la mort m'est un gain. Voilà quelqu'un qui était mort à lui-même pour pouvoir dire, mais en fait non, finir en martyr, ça va être un gain pour moi. Pourquoi? S'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Jésus, ce qui est de loin le meilleur. Quand on tient ce langage, on montre en fait que l'on est mort à nous-mêmes. C'est ce dont Paul rend témoignage dans Romains 6, Romains 7, où il parle de ce brassage, de cette lutte de la survie, jusqu'à ce que l'on dise, mais malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et voilà que il bascule de la chair à l'esprit. Romains 8, plus de condamnation, justification, marche par l'esprit. Ce goulot d'étranglement par lequel Paul est passé, après une conversion tonitruante sur le chemin de Damas, il a fallu qu'il passe 3 années dans le désert pour qu'il prenne conscience de tout ça. Exactement comme Israël avait passé 40 ans dans le désert et Jésus 40 jours dans le désert. Le désert, c'est le dernier mot de conclusion. On aimerait tellement passer de l'Égypte à Canaan directement. Mais on oublie qu'entre les deux, il y a le désert. Et on ne peut pas éviter le chemin du désert. Israël a passé 40 ans dans le désert et l'ancienne génération est morte dans le désert. Relisons 1 Corinthiens 10, Hébreux 3 et Hébreux 4. À cause de leur murmure, de leur endurcissement, de leur rébellion, de leur manque de foi, ils sont morts dans le désert. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, ne prenons pas le même chemin, ne faisons pas comme eux. mais persévérons. Donc, quand Dieu envoie des épreuves, il faut persévérer, ne pas se décourager. C'est pour notre bien qu'il envoie les épreuves, pour nous faire passer par ce goulot d'étranglement qui s'appelle la porte étroite. Et dans la porte étroite, on ne peut pas amener de sac à dos, on ne peut pas amener de valise, on ne peut absolument rien amener. Comme je l'ai dit, on aimerait tellement aller de l'Égypte directement en Canaan, on oublie qu'il y a le désert. Relisons Deutéronome chapitre 8, où il est dit, mais je t'ai entraîné dans le désert pour que tu éprouves la faim, pour que tu éprouves la soif, et pour que je puisse voir si ton âme est attachée à moi. Donc le désert, c'est à la fois le lieu de l'épreuve, la faim, la soif, la souffrance, mais c'est également le lieu de l'union avec le Seigneur. Et on ressort du désert, les deux sont devenus un. Vous voyez? C'est l'importance du désert. Et pour notre part, combien on aimerait directement sauter en Canaan. Les promesses de la parole de Dieu, la vie de l'esprit. Mais à nouveau, il n'y a pas de vie sans mort, et la mort, elle a lieu dans le désert. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Est-ce que quelqu'un voudrait prier? Et je conclurai par la prière.
Seigneur, tu as parlé, tu parles et tu continues de parler. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu nous rappelles encore une fois que tu nous as appelés. Tu t'es révélé à nous. Nous avons accepté dans notre cœur. Mais tu nous mets tout de suite dans le désert. Comme tu as mis le Seigneur Jésus après son baptême, 40 jours dans le désert. Comme tu as mis le peuple juif, quand il sortit d'Égypte, dans le désert. C'est un désert qui nous apprend à dépendre totalement de toi en nous dépouillant de nous-mêmes. Pas par nos forces, encore une fois, et par les épreuves que tu mets devant nous, que nous les acceptons avec joie. Parce que tu ne nous abandonnes pas durant ces épreuves, c'est ensemble que nous traversons ce chemin. Parce qu'au bout, nous pourrons nous écrier, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Merci pour ces paroles, merci pour ce partage, merci pour ta parole, merci pour ce cheminement et qui nous accompagne jour après jour pour que nous puissions te laisser agir, nous faire rentrer dans ce cheminement indispensable pour passer de la mort à la vie. Amen.
Amen. Et merci Père Céleste pour cette semence que tu plantes en nous qui est la parole de Dieu. Mais comme tu l'as dit Seigneur Jésus toi-même, cette semence doit d'abord mourir lorsqu'elle est plantée en terre avant que la plante ne puisse en ressortir et porter des fruits. Donc même cette semence que nous recevons, cette parole que nous entendons, elle est d'abord instrumentale pour nous entraîner dans la mort, dans l'enfouissement dans la terre avant d'en ressortir vivifié par toi et portant les fruits de l'esprit. Donc fais-nous grâce de ne pas reculer devant cette mort, mais de l'accepter en ayant les regards sur toi, en étant attachés à toi. Seigneur, sans toi, cela nous est impossible. Ou alors nous devenons fanatiques. Mais avec toi, parce que tu l'as déjà vécu, Seigneur, tu nous demandes juste de nous laisser entraîner avec toi et d'accepter ce que ta main nous envoie. Donc fais-nous cette grâce d'avoir un esprit plié devant toi et qui accepte tout ce que ta main envoie. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.